fou. Donc voilà, hier nous avons terminé l'office des vêpres, l'étude de l'office des vêpres. Donc maintenant nous allons prendre l'office de matines en semaine, suivant l'office des ménées. Donc je vous rappelle que en semaine, l'office dépend du degré de festivité du saint du jour. Donc le saint peut être non festif. À ce moment-là, il n'a que trois stichères au lucernaire. Il peut être à six stichères. Ça veut dire qu'il a... On a oublié Olga ? Pardon ? Et pourquoi tu ne me l'as pas dit ?
Elle, comme il ne l'avait pas demandé. Mais hier, on l'a... Il y en a deux qui se reposent.
Là, je suis scié, dis donc.
Mais comme hier...
Ah, je suis vert.
Mais elle se reposait déjà moi, comme les tarifs.
Ah bon ? Ah, d'accord. Ah, dans ta chambre ici ? Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Bon, mais elles ne veulent pas assister au cours ? Comment ?
Elle était fatiguée.
Elle était fatiguée, elle ne l'est plus, alors ?
Je suppose qu'après, ça ira mieux. Je crois qu'elle n'a pas très bien dormi.
D'accord. Donc, à six tichères, ça veut dire que le saint a six tichères au lucernaire. Ensuite, il y a un office à grande doxologie. Ça veut dire que on chante la grande doxologie, elle n'est pas lue. Et ça veut dire, on verra après. Et ensuite, vous avez un office avec polyéleos ou un office avec vigile. Et dans ce cas-là, les matines sont identiques entre polyéleos et avec vigile. Et là, on ne chante rien de l'octoèque, tout vient des ménées.
Tellement le saint de Stichère.
Pardon ?
Tellement le saint de Stichère, on n'a pas besoin d'aller en chercher dans l'octoèque.
Voilà, exactement. Tout l'office est complet. Donc on n'a pas besoin de l'octoèque. L'octoèque est remplacé entièrement. Tu me passes le livre des heures, s'il te plaît ? Merci. Donc, on en vient au début des matines. Donc là, il est marqué « Office royal ». Donc, qu'est-ce que c'est que l'office royal ? C'est un petit office qui est avant l'hexapsalme. Donc, on rajoute... Donc, il y a les prières initiales. Le prêtre dit « Béni soit notre Dieu, en tout temps, maintenant et toujours pour les siècles des siècles ». Donc, c'est le même bénédiction que pour les vêpres. Ensuite, il y a les prières initiales et il y a la lecture de deux psaumes, 19 et 20.
Tu peux nous dire sur quel fiche tu veux ?
Non, je ne suis pas, je suis dans le livre des heures. Dans l'affiche, il n'y a que marqué Office Royal. D'accord ? Actuellement omis. D'accord ?
Ça dépend si c'est pas festif.
Donc c'est pour ça que j'ai pris le livre des heures pour regarder ce qu'il y a dedans, parce que on le célèbre jamais. Il y a une petite ecténie et le cœur, donc le prêtre termine par l'ekphonèse. Car tu es un Dieu de miséricorde et ami des hommes, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Et le cœur répond Amen. Au nom du Seigneur, Père, donne la bénédiction. Et c'est là que le prêtre fait la bénédiction des matines. Gloire à la sainte, consubstantielle, vivifiante et indivisible Trinité, en tout temps, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Donc actuellement, on remplace entièrement l'office royal par uniquement les prières initiales, comme on fait chaque matin maintenant pendant le stage.
Nous rappeler ce que tu entends par l'office royal.
Alors l'office royal, donc tu l'as dans le livre des heures, oui, au début des matines, voilà. Donc,
mot, ça, il y a, oui,
128.
Il y a l'intitulé ça, d'accord.
Oui. Voilà.
Et qu'est-ce que ça s'appelle l'office royal, donc c'est.
Donc c'est juste, c'est ça, c'est le début. C'est les deux psaumes 119 et 20,
okay.
Jusque-là.
Jusqu'après l'ecténie.
Jusqu'après l'ecténie et jusqu'à gloire.
D'accord.
Jusque-là.
Hein. D'accord.
C'est ça l'office royal qu'on ne fait plus actuellement. On commence directement par l'exapsalme. Mais. Il est mieux quand même de commencer par les prières initiales. Donc, ce qui fait qu'on fait comme ça actuellement. Donc, dans mon cahier, l'office des matines. Donc, le prêtre commence à dire gloire à la sainte, consubstantielle, vivifiante et indivisible Trinité, en tout temps, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Et c'est le lecteur donc qui répond Amen. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Prières initiales jusqu'à notre Père. Le prêtre dit, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Le lecteur répond, Amen, et commence l'exapsalme. C'est juste pour mettre les prières initiales avant l'exapsalme. Parce que, normalement, chaque office commence par les prières initiales. Donc, pour ceux qui sont intéressés, ils regardent le cahier avec les matines pour voir comment ça commence exactement. Parce que le vrai début des matines, c'est l'exapsalme. Alors, l'exapsalme, c'est un moment très particulier. Donc, vous savez que les matines commencent la nuit. Donc c'est la partie nocturne. Ce sont les psaumes, ce sont six psaumes. Donc dans le livre des heures, vous voyez que c'est les psaumes 3, 37, 62, 87, 102 et 142. Donc il est dit dans le typicon que le lecteur doit lire avec crainte et que ceux qui écoutent aussi doivent écouter avec attention, sans bouger, sans renifler ni sans cracher. Donc c'est un moment très important. On éteint toutes les lumières. C'est pour marquer le fait que nous sommes dans la nuit. C'est pour marquer le fait que nous sommes donc dans un état déchu. Et donc les psaumes aussi rappellent cet état. Et l'on s'adresse, c'est un peu comme les psaumes du lucernaire, quoi. Mais là, c'est l'exapsalme. On doit être debout, on ne doit pas bouger. Et on, normalement, et donc pas d'inclination quand on dit entre les... Donc parce qu'après les trois premiers psaumes, on dit « Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 trois fois. Qu'il y ait sainte gloire. » Et donc même là, il est dit qu'il ne faut pas faire d'inclination. Ben non, c'est, donc s'il n'y a pas d'inclination, il n'y a pas de raison de se signer, quoi. Et donc, pas de déplacement, normalement, pas de déplacement dans l'église, personne ne bouge. On écoute avec attention ces six psaumes. Donc, c'est notre état, ça marque notre état de pécheur, d'homme déchu, quoi, hein, de condition déchue. Et toutes les matines vont nous amener petit à petit donc à la doxologie où on attend le soleil. Donc on se lève au milieu de la nuit pour prier et on attend le lever du soleil. Là, c'est là vraiment la partie nocturne. On éteint toutes les lumières. Dans les monastères atonites, on éteint même les cierges. Il n'y a que les lampades, ce qu'on a le terme russe, lampade, donc qui veut dire en français les veilleuses. Voilà, les veilleuses qui sont allumées. Voilà. Donc à la fin de l'exapsalme, il y a la fameuse grande ecténie de paix. Donc c'est la même qu'au début des vêpres. Donc on prie pour le monde, on prie pour la paix du monde, pour notre paix à nous et pour la paix du monde. Et ensuite, on a un psaume qui est chanté avec un refrain, donc des versets de psaume qui sont pris du psaume 117, où on dit « Le Seigneur est Dieu et il nous est apparu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Donc, tout de suite, au début, on chantait Alléluia. L'Alléluia n'est resté que au grand carême, à la place de Le Seigneur est Dieu. Donc, déjà, c'est un moment festif. Le Seigneur est Dieu et il nous est apparu. C'est déjà festif. Donc les versets, c'est « Confessez le Seigneur, car il est bon, car sa miséricorde est éternelle. Toutes les nations m'ont entouré, mais par le nom du Seigneur, je les ai repoussées. Je ne mourrai pas, mais je vivrai, je raconterai les œuvres du Seigneur. La pierre qu'avaient rejetée les bâtisseurs est devenue pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, elle est admirable à nos yeux. » Donc la pierre qu'avaient rejetée les bâtisseurs, c'est le Christ. Hein. Et d'ailleurs, je crois que le Christ, dans l'Évangile, prononce ces paroles, hein, et les adresse aux pharisiens, Parce qu'ils n'ont, c'est eux qui ont rejeté la pierre.
Et là, on met la lumière.
Pardon ?
Là, on peut allumer la lumière.
Oui, oui, là, là, déjà, on peut allumer la lumière. Voilà, tout à fait.
Et
voilà, pendant, les, pendant la, la grande ecténie, on allume les cierges. Et quand le prêtre sort pour dire... Non, le prêtre est déjà sorti. Mais quand on finit le, la grande ecténie, on peut allumer la lumière. Et le prêtre doit annoncer normalement le ton. Alors, sur quel ton on va chanter le refrain ? Le Seigneur est Dieu et il nous est apparu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est le ton du premier tropaire chanté. Donc, dans ce que je veux dire, c'est que dans en semaine, ben c'est le tropaire du saint, du jour. Hein. Donc, il change tous les jours. Et normalement, le prêtre doit se renseigner et doit être au courant du ton du Père du Saint. Malheureusement, souvent, il ne le fait pas et il n'annonce même pas le ton. Il dit « Le Seigneur est Dieu hein. ». Mais au moins, le cœur doit savoir qu'il doit chanter « Le Seigneur est Dieu » sur le ton du tropère. Donc la première phrase... Parfois, il faut chanter deux phrases pour le ton 4, parce que le final doit être après la, la deuxième phrase pour le ton 4. Donc, on chante « Le Seigneur est Dieu et il nous est apparu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » C'est ce qu'on a chanté ce matin. Et quand... Quand on a fini, quand le prêtre annonce le dernier verset, on rechante le Seigneur est Dieu et on enchaîne sur le chant du tropère. S'il y a deux tropères, on chante tropère, gloire, second tropère. Et on fait et maintenant théotokion de semaine dans le ton du dernier tropère. Donc ça, c'est la même séquence qu'à la fin des vêpres, hein, je vous avais dit. Du dernier tropère chanté, c'est-à-dire s'il y en a deux, c'est dans le ton du gloire. Donc là, on chante, la chorale doit chanter gloire et maintenant, hein, sur le recto tono. Il y a pas de, pour les tropères, il n'y a pas de chant de verset, comme pour les stichères. Gloire et maintenant se chante recto tono, mais toute la chorale doit le chanter. Ça va jusque-là ? Donc, une fois qu'on a terminé la séquence des tropères avec son théotokion, on passe à la lecture des catismes. Donc, comme aux vêpres, on a lu un catisme... Après la grande ecténie de paix, eh bien là, on a la grande ecténie plus la séquence du Seigneur et Dieu avec les tropères, et après, tout de suite, lecture des catismes. Donc ça rentre dans les 20 là, qu'on doit lire toute la semaine. Donc la majeure, en été et la majeure partie de l'année, on a deux catismes au matin. Et l'hiver et pendant le grand carême, on a trois catismes. parce que les nuits sont plus longues. Et après chaque catisme, donc, on chante ce qu'on appelle soit des catismes poétiques, soit des tropercatismes, soit des sédalènes, c'est le terme slave, sur le ton des tropères aussi, sur le ton des tropères. Alors, donc quand c'est un office non festif ou assistichère, dans les ménées, normalement, ces catismes-là n'existent pas, donc on prend les catismes poétiques de l'octoèque. Donc à ce moment-là, c'est le ton de la semaine, bien sûr, hein, puisque ça vient de l'octoèque. Quand il y a office avec grande doxologie, ou office avec polyéléos et vigile, donc à ce moment-là, on se tourne plutôt vers les ménées. Donc s'il y a des catismes poétiques indiqués dans les ménées aux matines, eh bien à ce moment-là, on les chante. Et à ce moment-là, ils sont précédés à chaque fois d'une petite ecténie. Donc ça, c'est le pendant, si tu veux, avec, dans les vêpres, vous vous souvenez que si c'est un office non festif ou assistichère, après la lecture du psautier, il n'y a pas de petite ecténie, on passe directement au lucernaire. À partir d'un saint avec grande doxologie jusqu'à la vigile, après la lecture du catisme, il y a une petite ecténie avant... Seigneur, je crie vers toi. Donc là, c'est pareil. Pour office non festif ou assistichère, il n'y a pas de petite ecténie entre le catisme et le chant des tropercatismes. Donc après, en semaine, donc... il n'y a pas, tant qu'il n'y a pas polyoléos, eh bien, après ces catismes poétiques, on passe directement à la lecture du psaume 50. Donc, ce psaume 50, il faut savoir qu'il est d'origine hiérosolomitaine. C'est-à-dire, ça vient de Jérusalem. Pourquoi ? Parce que pour ceux qui sont allés à Jérusalem, vous avez donc, dans l'église du Saint-Sépulcre, vous avez... plutôt en bas, donc, l'endroit où Jésus a été donc placé après sa mort. Le tombeau, hein. Non, pas la pierre. Je parle l'endroit où il était, déposé, mort dans le sépulcre. Et pour monter au Golgotha, le Golgotha était sur une colline. Donc, il faut monter. Il faut monter. Et donc, pendant la vigile dominicale à Jérusalem, donc, les gens descendaient au tombeau, ils faisaient des prières et ils proclamaient la résurrection du Christ. Donc... Et donc, on faisait un petit peu la passion et la résurrection. Et ensuite, il remontait, parce que l'entrée est au niveau, effectivement, de la pierre. Donc il y a trois niveaux. Il y a l'entrée du tombeau, il y a la pierre et la croix. Donc la pierre, c'est là la pierre où on a déposé le corps de Jésus avant de l'embaumer. Donc il y a eu un premier embaumement. On a mis les linceuls et on l'a descendu dans le tombeau. Donc il y a trois niveaux. Et donc, après la... Donc, si vous voulez, quand il proclamait la résurrection au niveau du tombeau. Donc, il lisait l'évangile résurrectionnel. Et donc, ça clôturait un moment. Il remontait. Et au moment où il remontait, il lisait le psaume 50. Voilà. Parce qu'ils allaient vers le Golgotha. Donc, ils allaient au Golgotha, et en allant au Golgotha, en montant, ils récitaient, ou ils chantaient, plutôt le psaume 50. Et ça nous est resté. Ça nous est resté, donc, à toutes les matines. Donc, quand c'est avec Polyéléos et Vigile, eh bien, ils se chantent tout de suite après l'évangile, la lecture de l'évangile. Et en semaine, ben, ça se fait après les catéchismes poétiques. Donc, lecture du psaume 50. Donc ça, c'est une constante des matines. Et après la lecture du psaume 50, vient la lecture du canon. Alors, justement, à Jérusalem, quand ils avaient fini toutes ces prières, la majorité des gens partaient, parce que c'était encore la nuit. Ils allaient se reposer un peu, jusqu'au chant du coq, c'est-à-dire au lever du soleil. Et pendant ce temps-là, donc ce qui préfigure un peu les moines, restaient au niveau de la chapelle de la résurrection, et ils chantaient ce qu'on appelle maintenant le canon, donc des odes. Donc le canon, le chant du canon, c'est en fait la transition entre cette partie nocturne et le moment où le soleil se lève, c'est-à-dire au moment des laudes. Les laudes, c'est au moment où le soleil se lève. Alors maintenant, chez nous, un canon, c'est devenu... Donc nous avons, dans un canon, nous avons 9 odes. Une ode est composée du chant d'un irmos et de la lecture des tropaires. Irmos, ça veut dire lien. Alors, lien avec quoi ? Avec les odes bibliques que l'on ne chante plus. Donc au début, une ode, c'était vraiment des odes bibliques. Ce sont des parties de l'Ancien Testament que l'on chantait, avec chacun un thème. Maintenant, ces odes-là ne sont plus chantées sauf en carême. Et encore, dans les paroisses où on sait le faire. C'est-à-dire très peu de paroisses. En tous les cas, on le fait à Saint-Serge. Non, non, le grand carême, c'est uniquement avant Pâques.
Quand on chante comme ce matin, l'Irmos.
Donc l'Irmos, le Christ-né, glorifiez-le, bon, ça n'a rien à voir avec le... Par contre, quand vous prenez les irmis de... Comment dire du dimanche, eh bien, il y a un lien entre l'Irmos et le thème de l'ode biblique qu'on chantait à l'époque. Donc voilà, voilà les odes bibliques. Donc la première ode, c'est le cantique de Myriam, sœur de Moïse. Donc quand le peuple d'Israël a traversé à pied sec la mer Rouge, Myriam, la sœur de Moïse, a chanté une louange à Dieu qui se trouve dans Exode, chapitre 15, versets 1 à 19. La deuxième ode, c'est un cantique de Moïse quand il est descendu du mont Sinaï et qu'il s'est aperçu que le peuple s'était fourvoyé et avait construit un veau d'or et faisait le culte à ce veau d'or. Et donc là, il a éclaté, quoi. Il a pété les plombs, quoi. Et donc, il a aussi donc, dit des mots donc, qui se trouvent dans Deutéronome, chapitre 22, versets 1 à 44, qui sont très durs pour le peuple d'Israël, très pénitentiels. Et donc, cette deuxième ode n'est jamais chantée, sauf pendant le carême.
C'est Deutéronome,
chapitre 32. Non, non, c'est 32. Hein. Pardon ? Si. Oui, il y a les autres bibliques. C'est ça, c'est ces fameuses autres bibliques. Donc, chapitre 32, versets 1 à 44. Bon, etc., etc. Vous voyez un peu le principe, hein ? Je ne vais pas tous les citer. Vous les avez effectivement à la fin du psautier liturgique. Je vais juste citer les 8e et 9e odes. Donc la 8e ode, c'est l'hymne des trois adolescents dans la fournaise. Donc ça, c'est Daniel, chapitre 3, versets 57 à 88. Et la 9e ode, donc c'est le cantique de la Mère de Dieu. Donc c'est « Mon âme magnifie le Seigneur hein, », magnificat en fait. Luc, chapitre 1, versets 46 à 55. Et la prière du prophète Zacharie. Luc, chapitre 1, versets 68 à 79. Donc avant, vous voyez, tout était tiré des... Parce qu'il n'y avait pas tous les hymnes qu'on a composés au fil des siècles. Au début, ils n'avaient que la Bible, hein, les gens. Donc, ils chantaient des morceaux de la Bible. est toujours interprété dans le sens de la venue du Christ, hein, toujours en rapport avec la venue du Christ. Donc maintenant, le lien qui existe entre une ode de nos canons et les odes bibliques, c'est l'Irmos. D'accord ? Et il n'y a que l'Irmos qui est chanté. Ensuite, maintenant, nous avons des canons, nous chantons des canons qui n'ont plus rien à voir avec ces odes bibliques et qui sont des canons tirés donc de l'Octoèque, qui sont dans l'Octoèque, et des canons qui sont donc pour les thèmes de chaque jour de l'Octoèque, donc Sandra, est-ce que tu peux nous rappeler les thèmes de chaque jour de l'Octoèque ? Tu les as notés ou non ?
Oui, je les ai notés de tête comme ça.
Non, mais si tu les as notés, regarde dans tes notes.
Oui.
Voilà.
Le mardi, la pénitence et Saint Jean-Baptiste.
Voilà.
Mercredi et vendredi, la croix et la mère de Dieu.
Ouais.
Le jeudi, les saints apôtres et Saint Nicolas.
Voilà.
Le samedi, les saints et les défunts.
Voilà.
Et le dimanche, la résurrection.
Voilà. Donc vous avez les thèmes des canons qui se trouvent dans le grand octoèque. Chaque jour, vous avez deux canons suivant ces deux thèmes. Le dimanche, au matin du dimanche, il y a trois canons. Le premier est à la résurrection. Le deuxième est à la croix et à la résurrection. Et le troisième est à la mère de Dieu. Et dans les ménées, vous avez un canon dont le thème est, bien sûr, le saint du jour. Hein, c'est normal. Donc, au matin, vous avez un canon composé pour le saint. Alors, malheureusement, dans la majorité des cas, ces canons sont très pauvres théologiquement. On dit, voilà, tu es bien heureux, tu as vécu saintement, bienheureux sois-tu, voilà. Ça va, généralement, ça ne va pas beaucoup plus loin. Sauf pour les grandes fêtes. Alors là, vous avez des canons magnifiques. Quand il y a une grande fête, là, on a toute la théologie de la fête dans le canon et dans les stichères. Donc, autant les offices des grandes fêtes sont riches, autant les offices composés pour un saint martyr peuvent être pauvres théologiquement. Mais bon, à une certaine époque, on vénérait les saints, on vénérait les reliques, c'était très important. Maintenant, ça l'est quand même un peu moins. Et donc, on aura un canon, comment ça se passe ? Donc, on aura bien les 9 odes, et dans chaque ode, on va mettre à la suite les trois canons qui se trouvent, donc deux canons de l'octoèque et le canon du méné. On va prendre la première ode, par exemple, de chaque canon, et on va chanter l'Irmos du premier canon de l'octoèque. On va lire les tropères. Donc, entre les tropères, on dit des versets. Donc, par exemple, le jeudi, nous avons deux canons à l'Octoèque, le premier aux saints apôtres et le deuxième à Saint Nicolas, puisque ce sont les thèmes du jour du jeudi. Et si on est le 13 février, on fête la mémoire du saint martyr martinien. Donc le troisième canon sera celui de Saint Martinien. Et donc chaque ode va comporter l'irmos de l'ode du premier canon. On va lire les tropaires du premier canon, lire les tropaires du second canon, lire les tropaires du canon des Ménées. Et devant chaque tropaire, on va dire un verset qui se rapporte au tropaire qu'on est en train de lire. Donc, par exemple, le premier canon de l'Octoèque se rapporte aux apôtres. On va dire « Saints apôtres, priez Dieu pour nous ». Et on va lire le premier tropaire. Après, on dit « Saints apôtres, priez Dieu pour nous ». Et on lit le deuxième tropaire, etc. Après, s'il y a marqué martyrica, donc à ce moment-là, ce sont des tropaires qui sont à la gloire des martyrs, on dit « Saint martyr, priez Dieu pour nous », etc. Et si, à chaque fin de canon, il peut y avoir aussi marqué « Théotokion ». Donc à ce moment-là, on dit « Très sainte mère de Dieu, sauve-nous ». Et on lit le Théotokion. Après, on va passer au deuxième canon de l'Octoèque. Le jeudi, il est à Saint-Nicolas. Donc on va dire « Saint-Hiérarque Nicolas, prie Dieu pour nous ». Puisqu'il était... C'était un évêque. Donc, pour chaque type de saint, on a ce qu'il faut. En réserve. Et donc, on va lire Saint-Hiérarque Nicolas, prie Dieu pour nous. On va lire le premier tropaire. Saint-Hiérarque Nicolas, prie Dieu pour nous, deuxième tropaire, etc. Jusqu'au Théotokion, on va dire Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Et on va passer au troisième canon, celui des Ménées. Donc, si on est le 13 février, c'est Saint-Martinien. On va dire Saint-Vénérable Martinien, prie Dieu pour nous. Si c'était un martyr, on aurait dit « Saint martyr martinien, prie Dieu pour nous ». Etc. Jusqu'à l'avant-dernier tropaire de l'ode. À l'avant-dernier tropaire, on dit « Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit ». On lit l'avant-dernier tropaire. Et on dit ensuite « Et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles, Amen ». Et on lit le Théotokion. Du dernier canon, ce qui se trouve dans les Ménées, parce que systématiquement à la fin de chaque canon, il y a un Théotokion encore. Et donc ça termine la première ode. Et il y en a 9 comme ça, enfin 8, puisqu'on ne fait pas la deuxième. Donc après la première ode, parce que son thème, c'est très pénitentiel, on garde la deuxième ode uniquement au grand carême. Donc systématiquement, les autres, dans le reste du temps, on n'a même pas composé la deuxième ode. Elle n'existe même pas, donc tu ne peux même pas la faire. Par contre, dans le triode de carême, elle y est systématiquement. Et donc, on commence ensuite donc la troisième ode, qui débute par le chant de l'Irmos de la troisième ode. Etc. Et puis on recommence de la même façon la troisième ode. Bon. Donc ça, on ne va pas insister là-dessus. c'est relativement compliqué. Donc c'est juste pour vous donner une idée, que vous compreniez un petit peu. Ce matin, donc, on a dit, je t'ai fait lire, gloire Seigneur à ta croix vénérable. Donc quand le thème c'est la croix, donc aujourd'hui on était mercredi, donc les deux thèmes c'était la croix et la mère de Dieu. Donc il y avait deux canons, j'ai fait lire le premier canon par Ariane. Donc elle disait gloire Seigneur à ta croix vénérable. Elle disait à un tropère, gloire Seigneur à ta croix vénérable. Et puis après, il y avait un teutokion, elle a dit très sainte mère de Dieu, sauve-nous. Et il y avait des martyrs, donc on a dit c'est un martyr, voilà. Il y avait deux tropères aux martyrs. Ensuite, qui a lu le deuxième canon de l'Octoèque? Et toi, tu as dit, donc c'était très sainte mère. Non, toi, tu as dit l'Héménée. Qui ben, lève la main. Ah. Donc, toi, tu as dit « Très sainte mère de Dieu, sauve-nous ». Voilà. Et donc là, je me suis trompé. Je t'ai dit une fois de dire « Gloire ». Non, il ne fallait pas dire « Gloire ». Il fallait dire « Très sainte mère de Dieu » à chaque fois. « Très sainte mère de Dieu ». Ensuite, on est passé au canon du saint. Et là, c'était « Saint Hiéromartyr Phocas, prie Dieu pour nous ». D'accord ? Voilà. Et devant l'avant-dernier, je t'ai fait dire gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. On lit l'avant-dernier. Et pour le Théotokion. Et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Et le Théotokion du voilà. Donc c'est pour que vous compreniez un petit peu comment se compose un canon. Donc le problème, c'est que nous, on n'a pas le temps de lire toutes les zones. Déjà, donc on a un office qui dure à peu près 1h05, 1h10. Donc, j'ai gardé uniquement la 9e ode. J'ai gardé que la 9e ode du canon. On ne fait pas la première, ni la 3e, ni la 4e, ni la 5e, ni la 6e, ni la 7e, ni la 8e. On ne fait que la 9e. Ça, c'est... Par contre, j'ai gardé le Kondakion qui est après la 6e ode. Donc, après la fin de la 6e ode, il y a systématiquement un Kondakion. Un Kondakion, c'est un tropère au sein qui est l'équivalent. Ouais, le Kondakion, c'est l'équivalent d'un tropère. Sauf que le tropère se chante à la fin des vêpres et au début des matines et à la fin des matines. Et le Kondakion se chante après la 6e ode du canon.
Et tu le mets où ? Après la 9e ode.
Non,
après la 6e. On n'a pas fait la 6e.
Voilà. Donc, après le psaume 50, on chante le Kondakion. Donc, je dis Kondakion, ton X, il est marqué dans le... dans la Ménée, on le chante, éventuellement il y a un Nikos, donc ça se lit, et après on passe au Magnificat, qui est le début de la 9e ode. Donc avant le chant du Magnificat, le père normalement encense. Le prêtre encense l'autel, il sort par la porte nord, il encense l'iconostase, il se met devant l'icône de la Mère de Dieu et il dit une phrase qui à peu près dit qu'est-ce qu'il dit, attends, voilà, par nos chants glorifions la Mère de Dieu et magnifions-la. Et ça lance le Magnificat. Et c'est là où on chante le Magnificat. Donc ça se chante sur un ton d'Irmos. Donc,
ça change.
Oui. Ça change tout le temps. Normalement.
Et c'est aussi la seule ode chantée.
C'est la seule ode chantée qu'on a gardée. Voilà.
Mais ça change.
Ça change de ton. Normalement, ça change de ton. Ça peut changer. Ça peut changer de ton. Si la chorale est capable de changer, de connaît bien le ton des Irmi.
C'est impossible que ça se chante sur une mélodie écrite par un compositeur. C'est pas possible.
Bah, tout est possible. Hein. Maintenant, après, c'est.
Parce que je t'ai chanté hier, justement, c'était ça, le refrain de.
C'est après, c'est Jésus qui va dire est-ce que c'est bon ou non. C'est pas moi. Hein. Moi, j'y suis pour rien. Tu fais ce que tu veux. Hein. C'est pas moi qui vais juger. Hein. D'accord. Il y a ce que dit l'Église de faire. Donc l'Église dit de le chanter. On a l'habitude de le chanter sur le ton des Irmi. Voilà. Dans l'Église cathédrale, on commence à chanter, mais bon. Ça, c'est autre chose. Ça ne nous regarde pas.
Ah, voilà, c'est autre chose.
Okay. C'est une autre tradition, quoi. C'est une tradition.
Donc, ça existe, notre tradition. Voilà.
Qu'est-ce qui fixe cette règle-là ? Cette règle de chant ? C'est le patriarcat ? C'est Moscou ? C'est la Bélarus ? C'est
non, c'est. Il y a un certain Vladimir Rebinder, comme ça, qui décide, alors bon, et tout le monde fait. Non, mais il y a. C'est le chef de chœur qui décide du chant dans sa chorale. C'est le chef de chœur. Donc, le chef de chœur, suivant ce qu'il a, il peut chanter soit du Bartnianski, ou du Lvov, ou du. Ou ce que tu veux, ou les chants traditionnels de Kiev simplifié, ou du Znameni, ou. Bon, c'est lui qui décide avec le prêtre, bien sûr. Si le prêtre n'est pas d'accord. Donc, le prêtre et le chef de chœur décident quel type de chant ils vont adopter. D'accord ? Non. C'est dans chaque paroisse, la paroisse décide qu'est-ce qu'elle va faire comme office, combien de temps ça va durer. Donc on a un typique, on a un type, on a un modèle. Et après, comme j'ai dit, Jean, on adapte. On adapte. Partout, c'est adapté. Et une église adapte comme ça, une autre église comme ça, une autre église comme ça, tel monastère comme ça, tel autre monastère comme ça.
Si on entend tout le monde dire, par exemple, Bartnianski numéro 7, on en parlait, mais jamais chanté en liturgie. C'est pas un concert.
Ah non, à Saint-Serge, on chantait toujours la 7 à Pâques. À Pâques, on chantait toujours la 7. Bah oui. Elle est plus difficile, mais elle est plus belle. Bon, elle...
Et alors, l'office cathédrale est vraiment très différent.
Il peut être différent. Avec, tu prends des cathédrales, tu vas assister à un office actuellement à Moscou dans l'église du Christ Saint Sauveur. Tu peux suivre même à la télé ou, mais tu verras le type de chœur que c'est et le type de chant. Tu verras, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait, quoi. Comment ?
Pourquoi cette question ? Parce que j'ai été frappé une fois que j'étais à la visite du patriarche Bartholomé à Paris il y a quelques années de ça, plusieurs années. Ouais. Il y a eu, le samedi, il y a eu une liturgie qui a été faite avec le patriarche à la rue d'Arrue.
À la rue d'Arrue, oui.
C'est pas un office, mais que j'ai bien suivi, que j'ai reconnu
la
structure.
Ouais, ouais.
Le lendemain, il y avait. À la cathédrale grecque.
Mm-hmm.
J'ai rien compris.
Ah, bah oui, c'était en grec.
Non, mais
attends, quel office tu as suivi à Darus ? C'était une liturgie ?
Oui.
Eucharistique ?
Oui.
Bon, donc
et
tu l'as.
Aussi le dimanche.
aussi une liturgie eucharistique. Mais ils ont commencé peut-être par des matines ou je ne sais pas quoi. Non, bah, là, il faut connaître un peu parce que entre grecs et slaves, les traditions ne sont pas toujours les mêmes. Hein. Donc, chaque.
Est-ce que ça peut aussi être dû justement à cette.
Non. Là, c'est vraiment une différence de tradition pour. Parce qu'une liturgie eucharistique, c'est donc la liturgie des fidèles sera forcément la même. Hein. Par contre, au début, il peut y avoir des différences. Ils ne chantent pas les antiennes comme nous. On peut être dérouté. Hein. Ça, je comprends. Hein. Alors que à la cathédrale, c'est ce qu'on fait d'habitude, les trois antiennes. Et chez les Grecs, c'est pas tout à fait pareil, quoi. Hein. Voilà, donc. Donc, quand je dis office cathédral, c'est sur le caractère du chant, sur le caractère, donc, avec des sopranes, des basses, des 36 voix, avec des harmonisations. Très, alors que nous, c'est 3-4 voix, mélodie très simple, harmonisation très simple. C'est ça que je veux dire. Hein. Et maintenant, un office cathédral, tu le retrouves, donc, effectivement, au Christ Saint-Sauveur à Moscou. Donc ça, c'est le type d'office cathédrale, ce que j'appelle le type cathédrale. Donc moi, on ne fait aujourd'hui que la 9e heure, la 9e ode, je veux dire. Donc on commence par le Magnificat, qui se chante sur le ton des Irmies. Donc, cette semaine, j'ai décidé de le chanter sur le ton Irmos, ton 5, puisque on était, et que, comme on fait pratiquement tout le temps, on commence par le canon de l'Octoek, et que l'Irmos, après, c'est un Irmos du ton 5, pour ne pas changer, donc je fais ton 5, et Irmos, ton 5. Donc, vous n'êtes pas perturbé. Donc, je vous ménage. J'ai pas l'air comme ça, mais. Voilà. Et donc, après, on chante ce qu'on appelle la katavasia pour terminer une ode. Donc, en semaine, la katavasia se chante uniquement après la 3e, 6e, 8e et 9e ode. Pour clôturer, eh bien, on chante l'Irmos du dernier canon. Donc, en fait, j'ai pris la 9e ode dans les Ménées. Elle commence par un Irmos. Au lieu de le chanter au début, eh bien, on le chante à la fin en tant que katavasia. Et après, en semaine, quand c'est un office simple, on chante « Il est digne en vérité ». Et ça termine complètement à ce moment-là le canon. Et il est prescrit dans le canon de faire une grande prosternation.
En semaine ?
En semaine. Alors, le dimanche, il a été prescrit, alors je ne sais plus à quel siècle, mais c'est 4e ou 5e siècle, à la faveur donc d'un des grands conciles œcuméniques, que le dimanche, on ne s'agenouille pas dans l'église. Voilà, donc ça, c'est typiquement le genre de choses sur lesquelles les orthodoxes vont se battre. Parce que les uns disent « Ah, mais il faut surtout pas s'agenouiller le dimanche, si tu t'es agenouillé, tu es hérétique !» et puis d'autres qui ne connaissent pas du tout, qui viennent d'arriver dans l'église orthodoxe, et puis donc ils s'agenouillent naturellement. Et voilà, donc ça n'a strictement aucune importance. Hein. Sauf que, donc pourquoi on avait dit ça? C'était parce que les gens allaient souvent à l'église, ils allaient toute la semaine à l'église, et que pour marquer le fait que le dimanche était un jour exceptionnel et qu'on fêtait la résurrection du Christ, donc qui est le fondement de notre foi et qui est le fait que nous sommes sauvés par la mort et la résurrection du Christ et que c'est vraiment c'est le fondement de tout. Donc on a dit on ne va pas s'agenouiller le dimanche. Mais ce n'est valable que si on va à l'église tous les jours et si on s'agenouille tous les jours à l'église. Si on va à l'église une fois par semaine, le dimanche, ça n'a plus aucun sens. Voilà. Donc, il faut toujours aussi comprendre, ne pas appliquer à la lettre et ne pas le comprendre d'une façon restrictive, mais savoir pourquoi ça a été dit et dans quel but.
Une question sur les catharasies.
Oui.
Les catharasies, ce sont des hirmes, ce sont des hirmes, mais est-ce qu'il y a des catharasies spécifiques?
Oui.
Ils sont remplacés par une hirmie
Alors, si tu me poses... la catharasie, voilà comment ça se passe. Donc, il y a deux systèmes pour les catavasiens. Il y a un système en semaine et le système des fêtes. Ça va même plus loin. C'est-à-dire qu'en semaine, tu as une différence entre 3 stichères, 6 stichères. C'est un système. Et à partir de grande doxologie et au-delà, c'est un autre système. D'accord ? Donc, quand c'est un office simple, à 3 ou à 6 tichères, la catavasse ne se chante, comme j'ai dit, qu'après la 3e, la 6e, la 8e et la 9e. C'est tout. Et à ce moment-là, on prend, comme je t'ai dit, l'irmos du dernier canon, qu'on ne chante pas, puisqu'on ne chante que le premier irmos à chaque ode. Donc là, en tant que catavasse, on chante l'irmos du dernier canon, à la 3e, à la fin de la 6e, avant le condacion, avant la 8e, c'est-à-dire avant le magnificat, et après la 9e, après la 9e, pour clôturer le canon. Et juste après, on chante « Il est digne en vérité » et « Grande prosternation ». Par contre, à partir de « Grande doxologie », le système change complètement et on chante une catavasse à la fin de chaque ode. Et là, ce ne sont pas des hirmies du canon qu'on vient de chanter, ce sont des hirmies des grandes fêtes. Alors là, j'ai la liste, si tu veux, pour toute l'année. Quel irmos on prend pour ces catavasses? Donc, par exemple, du 1er au 21 septembre, pour la catavasse, on prend les irmies de l'exaltation de la croix. Du 22 septembre au 20 novembre, on va chanter le canon « Ma bouche s'ouvrira » de la Mère de Dieu, ton 4. Du 21 novembre au 31 décembre, c'est les irmies de la nativité, ce qui veut dire que justement à partir de quand tu vas assister à l'office de vigile du 21 novembre, donc ça doit être l'entrée de la Mère de Dieu au temple, si je ne me trompe pas. Le 21 novembre, c'est l'entrée de la Mère de Dieu au temple. Quand tu vas assister à cette vigile, à la fin de chaque ode, normalement, en tant que catavasse, tu chantes déjà, pour la première fois, les irmies du canon de Noël. Et tous les dimanches aussi, d'ailleurs. C'est à partir du 21 novembre qu'on chante les irmies du canon de Noël, jusqu'à la clôture de la nativité. Tu vois, etc. Donc tout ça, c'est si tu veux, c'est prescrit par l'ordo. Donc, deux façons. Donc là, on est dans le système simple. Donc, ce que j'ai pris à la fin de la 9e mode comme katavas, c'est l'irmos du canon des Ménées. Voilà, donc une fois qu'on a chanté « Il est digne en vérité » sur le ton donc de la katavas, justement, pour ne pas changer. Donc là, on prend « Il est digne en vérité » sur le ton de la katavas, donc sur le ton de l'irmos de la 9e mode du déméné, et on fait la grande prosternation. Et là, il y a une petite ecténie. Donc, on a terminé le canon. Ensuite, on lit l'hexapostillaire. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce sont des petits tropaires qui sont marqués à la fin des canons, marqués hexapostillaire. Et donc, on les lit. Et après, on passe. Donc, on est arrivé à... au moment des laudes. C'est-à-dire que là, on est arrivé... à la partie maintenant où on attend le lever du soleil. D'accord ? Comment ? L'évangile n'est pas lu en semaine, sauf si c'est un office avec polyéléos. Donc ça commence à être déjà très important. D'accord ? Donc il n'est pas lu. Parce que polyéléos, justement, introduit toute la séquence de l'évangile qu'on fait systématiquement au matin de dimanche. Mais en semaine, s'il n'y a pas de saint avec polyéléos, on ne fait pas. Tout ça, c'est supprimé. Ça, tu l'as sur ce tableau. Oui, hein. Voilà. Alors, les lodes, je peux t'en prendre. Ah ben non, je l'ai là. Excuse-moi. Donc les lodes. Donc vous l'avez ici, les lodes. Donc après les lodes, voilà. Ce sont là en semaine, donc on lit les lodes. Les lodes. Les lodes, c'est les psaumes 148, 149 et 150. Donc les trois derniers psaumes. Donc ce sont des psaumes de louange. Ça commence par « Louez le Seigneur du haut des cieux, à toi convient la louange au Dieu. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le au plus haut des cieux, à toi convient la louange au Dieu, etc. » Et ça se termine par louez-le avec les cymbales retentissantes, louez-le avec les cymbales de jubilation, que tout souffle loue le Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. À toi convient la gloire, Seigneur notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Et avant de passer à la petite doxologie, donc petite pourquoi ? Parce qu'elle est lue. Le prêtre ou le lecteur dit « Gloire à toi qui nous a montré la lumière. » Et nous lisons donc dans ce cas-là « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes. Nous te chantons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce. » Voilà. Donc là, on est arrivé au moment essentiel. Donc, on a prié toute la nuit, quoi, presque. Et puis, donc, on arrive au lever du soleil. Et ce soleil, c'est le symbole du Christ qui ressuscite, qui nous apporte la lumière dans nos ténèbres. Voilà, donc c'est un moment très important dans la journée où on glorifie le Christ pour tout ce qu'il a fait pour nous. Donc, petite doxologie lue. Ensuite, on a une ecténie des demandes. Accomplissons notre prière matinale au Seigneur. Et comme si ça ne suffisait pas, on a la séquence des apostiches des matines. Donc c'est encore des stichères qui ont été composés, qui se trouvent dans l'octoèque et qu'on rajoute à la fin, après cette ecténie des demandes. Donc ça, c'est dans l'octoèque. Avec des versets, donc il y a des versets spéciaux à chaque fois. Apostiche, ça veut dire que les versets sont spéciaux. Quand on a chanté le Théotokion, on poursuit. Il est bon de confesser le Seigneur et de chanter ton nom très haut pour annoncer au matin ta miséricorde et ta vérité durant la nuit. Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, jusqu'à notre Père. Donc c'est une partie des prières initiales sans le Roi Céleste. Et une fois qu'on a récité donc le Notre Père, après l'ekphonèse du prêtre, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles, Amen, le cœur chante Amen et le Trop-Père du Saint du jour. Avec un Théotokion qui est différent de celui du début de l'office, qui est spécifiquement marqué pour la fin des matines. Donc ensuite, il y a une ecténie instante encore, donc Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison trois fois, comme à la fin des vêpres. Finale et congé et première heure. On enchaîne avec la première heure. Donc vous voyez que c'est un office qui est long. C'est un office qui est long et que dans les monastères, on commence vers 4h, 4h30 du matin pour terminer au lever du soleil. Donc il y a facilement 3h, 3h30 d'office. Donc nous raccourcissons. Nous raccourcissons à 1h, 1h, 1h05, 1h10, d'accord ?
J'ai assisté à Bussy, je crois que vous souvenez, à 5h.
À 5h, voilà. À 5h, oui, oui. À Bussy, pas à 5 heures ? Au moins tous, en tous les cas, c'est à 4h30, quoi, grosso modo, c'est ça. Oui. Donc, quelques mots maintenant pour terminer sur l'office de vigile du dimanche, si vous voulez bien. Donc, le jour du Seigneur, nous nous rassemblons pour prier. Donc, ça, c'est le jour de prière par excellence. Autant, donc, en semaine, il n'y a pratiquement que les moines qui célèbrent. Dans nos paroisses, maintenant, on ne fait pratiquement plus d'office en semaine, malheureusement. Par contre, nous nous rassemblons tous systématiquement pour le jour du Seigneur. Et là, on célèbre un office de vigile. On célèbre un office de vigile, donc le samedi soir. Mais même maintenant, à la vigile, pratiquement plus personne ne vient, quoi. Ça, c'est quand même dramatique, ça. Alors que le sens de ces vigiles est extrêmement important, hein, puisque ça récapitule, hein, tout l'œuvre de salut, toute notre histoire humaine, hein, toute l'histoire de l'humanité, d'Adam jusqu'au nouvel Adam. Le nouvel Adam, c'est le Christ. Pourquoi on l'appelle le nouvel Adam ? Parce que c'est une nouvelle création humaine. Adam est un homme, mais il est un homme divinisé. Et donc, la nature humaine change au moment de l'incarnation du Christ. Et donc, Adam, le Christ est appelé le nouvel Adam. C'est lui notre nouveau modèle, c'est lui. Et donc nous commençons la vigile par le chant du psaume 103, par le chant de la création. Ensuite, nous rentrons dans les ténèbres. Donc nous allons passer toute la nuit à prier, parce que il faut prier pour être sauvé. C'est la seule action qui rapporte des fruits, qui rapporte notre trésor. C'est là où nous gagnons notre trésor pour les cieux. Le reste ne nous apporte rien, sauf si on le fait au nom du Christ. Saint Séraphin de Sarov disait: si vous ne faites pas une bonne action au nom du Christ, elle ne vous rapporte rien. Donc il faut tout faire au nom du Christ. Le Christ doit être au centre de notre vie. Il est le début et la fin, l'alpha et l'oméga. Il sera tout en tous. Il va remplir l'univers. Donc nous prions toute la nuit et nous attendons le lever du soleil. Donc nous faisons les vêpres et au milieu de la nuit, nous allons faire le polyéléos. Nous allons lire l'évangile de la résurrection en pleine nuit. Après, nous allons chanter le canon pour attendre le lever du soleil. Et quand le soleil se lève, nous chantons la grande doxologie. Donc cette doxologie, maintenant, elle est lue. Elle est chantée. Pardon. Elle est chantée. Et donc, et là, voilà, on a passé les ténèbres et on se retrouve de nouveau dans la lumière. Et c'est là que nous allons célébrer la liturgie eucharistique. Et cette liturgie eucharistique nous amène au banquet éternel dans le royaume des cieux. Et c'est le but de notre vie. C'est le but de notre vie. Donc l'Eucharistie, c'est la participation au banquet éternel dans le royaume de Dieu que Jésus nous a préparé. C'est un moment extraordinaire. C'est ce qui fonde notre Église. Nous sommes tous le corps du Christ à ce moment-là. Pleinement. Nous participons à la divinité du Christ. Et nous communions. Donc, la communion, c'est un acte essentielle, vitale, dont on n'est jamais digne, qui nous est donnée gratuitement par Jésus parce qu'il nous aime. Et il a fait tout ça, il a créé Adam pour ça. Pour qu'il devienne co-héritier du royaume avec Jésus. Nous sommes tous les frères et sœurs de Jésus. Co-héritier avec lui et divinisé. Et donc, normalement, quand on assiste à la liturgie, on communie parce que c'est le but de notre vie. C'est pour ça qu'on a été baptisés. C'est pour ça que nous sommes devenus chrétiens. Si on a l'occasion de participer à cette communion, on le fait. Et la liturgie elle-même est une préparation à cette communion. Et nous ne le faisons pas parce que nous sommes dignes ou indignes. Nous le faisons parce que nous sommes chrétiens, parce que nous sommes baptisés et que nous sommes avec nos frères et sœurs qui ont été baptisés en Christ et nous faisons partie du même corps et sang du Christ. Et nous sommes plus proches de nous qu'entre frères et sœurs dans une famille. Et pour ça que nous nous aimons. Et donc, quelqu'un qui ne communie pas à ce moment-là, il se sépare de cette communauté. Donc, on ne dit pas « je veux » ou « je ne veux pas communier ». Ce n'est pas une question de volonté propre. « Ah ben, je ne vais pas communier parce que, bon, je ne sais pas, je suis mal luné ou quelqu'un m'a dit ça, on me force, ou je ne sais pas, enfin... » Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens.
Oui, mais si on n'est pas préparé. Si
mais qu'est-ce que ça veut dire alors? Explique-moi ce que ça veut dire être préparé. Qu'est-ce que ça veut dire?
Et si on a mangé le matin.
Non, mais quand tu vas communier, tu ne manges pas, bien sûr. Ah oui. Tu ne manges pas. Parce que l'Église te dit, à partir de minuit, le dimanche matin, tu ne manges pas pour communier. Ben, si tu manges, tu t'exclus toi-même de la communauté. Ben, tu ne vas pas à l'église, quoi, je veux dire, ce n'est pas la peine d'aller à l'église.
Qu'est-ce que tu veux au monde à l'église, hein?
Ben si. Je veux dire, on va à l'église pour glorifier Dieu, pour faire la communauté, pour vivre ce pour quoi on a été créé. Ça dépasse quand même. Pardon. Oui, alors bon, non, bah, on peut toujours parler de ce qui s'est passé il y a un siècle, ou plusieurs siècles avant, effectivement au XVIIIe siècle. Donc, au XVIIIe siècle en Russie, si tu permets, donc il y avait, on ne communiait plus, mais c'est pas, ça ne veut pas dire que c'est bien.
Ça,
voilà. Donc là, maintenant, on redécouvre le sens de la communion. Donc ça, ça a été depuis la fin du 19e siècle. Il y a eu un renouveau spirituel, comme j'ai dit, autant liturgique que iconographique que pour le chant. Donc tout ça, ça va ensemble. Hein. Donc, on redécouvre le sens des choses. Grâce à des hommes comme le père Serge Bulgakov, comme Paul Evdokimov, comme et à leur suite comme comment il s'appelle oui à leur suite, mais avant il y avait d'autres personnes dont je n'ai plus le nom actuellement, mais à leur suite donc père Alexandre Schmemann a étudié et donc il s'est imprégné de ça et il a rayonné ça, et l'Institut Saint-Serge a rayonné ça. Donc, bon, effectivement, on faisait autrement au XVIIIe siècle. Mais il faut bien comprendre que c'était moins bien que ce qu'on veut faire maintenant. Ce n'est pas parce qu'il le faisait au XVIIIe siècle et que c'est une longue tradition, hein, que c'est bien. D'accord ? Donc je t'explique. Donc, au XVIIIe siècle, l'Empire était orthodoxe. Le roi était loin de Dieu. Enfin, le tsar était loin de Dieu. Mais malheureusement, les gens ne communiaient qu'une fois ou deux fois par an. C'était devenu une tradition. Et donc, à ce moment-là, quand ils communiaient, ils se préparaient pendant une semaine. Ils se préparaient, donc c'était deux fois par an, donc ils savaient que, bon, ben pour leur fête ou pour Pâques, donc, ou pour une autre occasion, donc ils allaient communier dans une semaine. Et alors toute la semaine, ils se préparaient, ils jeûnaient une semaine, ils avaient des prières spéciales, ils se confessaient. Donc c'est là où on a commencé à lier d'une façon systématique confession, et tu pouvais pas communier si tu n'étais pas confessé. C'était là. Mais à l'origine, il n'y a aucun lien entre la communion et la confession. Il n'y a aucun lien. Enfin, si, il y a un lien, mais ce n'est pas celui-là. C'est pas celui-là.
Les liens hein? De préparation à la communion sont un peu plus nuancés de ce côté-là. Ils disent quand même, je n'ai pas ma robe de mariage, donc j'ai peur d'être chassé.
Non, mais oui, mais attends. Oui, oui, mais...
Mais c'est quand même d'avoir des gens qui vont, comme ce qu'on voit chez les catholiques, c'est-à-dire qu'on ne fait même plus attention. La communion, c'est devenu comme une disruption de pain béni à la fin.
Oui, oui, non, mais bien sûr, c'est pas ça. Pour nous, ça peut pas être ça.
Comment tu places
l'homélie
de Jean-Chrysostome, du jour de Pâques,
où
tout le monde est invité à la table.
Ben voilà, mais c'est ça, mais c'est exactement ça. À Pâques, et Saint Jean-Chrysostome dit, ceux qui ont jeûné, ceux qui n'ont pas jeûné, vous venez de la 11e heure, n'ayez pas peur, parce qu'il faut bien comprendre une chose, que par rapport à tout ça, par toutes ces traditions qu'il faut savoir dépasser, il faut bien comprendre que la seule chose qui est importante, c'est que le Christ est mort sur la croix pour nous. Le Christ est mort sur la croix. C'est ça qui est important. C'est pas est-ce que tu as mangé une biscotte avant la liturgie. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est quoi? C'est que le Christ est né, que le Christ est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Et pourquoi il a fait ça? Tu comprends? Et est-ce que nous sommes dignes de ça? Est-ce qu'on peut dire que je suis digne de ce que le Christ, le Fils de Dieu, se soit incarné et qu'il soit mort sur la croix? Est-ce que moi, pécheur, je peux être digne de ça et me préparer pour être digne pour communier? Tu es d'accord? Donc le fait que nous soyons baptisés, c'est ça notre préparation, c'est ça notre foi. Quand nous nous faisons baptiser, nous disons, voilà, Jésus-Christ, j'ai compris ton message, et je sais que tu m'aimes, que tu as fait tout ça pour moi, et je réponds à ton amour par mon adhésion, par ma foi, par ma fidélité. Et bien c'est ça. Par mon respect, bien sûr. Mais bien sûr. Donc maintenant, voilà. Donc, et chaque dimanche, depuis le début, chaque jour du Seigneur, les chrétiens tous se rassemblaient et communiaient au corps et au sang du Christ, parce que c'est ça, la vie chrétienne, c'est ça. La vie en Christ, c'est ça. C'est la communion du dimanche. Si on est baptisé, c'est pour la communion du dimanche. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens ont commencé à exprimer leur « ouais, moi j'ai péché, j'ai volé le cheval de mon voisin, j'ai... » Et puis c'est devenu, bon, après on a dit « bon, stop, on va faire des confessions individuelles. » Et puis, après, il y a eu ce qu'on appelle les excommunications. Donc ça veut dire quelqu'un qui a tué son prochain ou qui a fait un adultère. Donc là, il était excommunié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que justement, bah toi, malheureusement, excuse-nous, mais tu ne vas pas pouvoir communier avec nous, les autres, qui sommes saints. Parce que les chrétiens, ce sont les saints, les choses saintes aux saints. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui passe? Et les catéchumènes, on les renvoie. On les renvoie. Pourquoi on les renvoie? Parce qu'ils ne communient pas. Et ceux qui étaient excommuniés partaient en même temps. Ne restaient que ceux qui communiaient. Donc, ceux qui restent, c'est ceux qui communient. Si tu ne veux pas communier, tu ne viens pas. Ben non. Mais c'est ça.
Et donc, dans le cheminement spirituel de chacun, où places-tu donc la fonction de la confession? Si je ne peux pas dire fonction.
Alors, la confession, donc, comme je te disais, au XVIIIe siècle, alors il y a le début. Donc, au début, effectivement, les gens confessaient à vive voix, donc au moment de leur. Et ils disaient, voilà, excusez-moi, mes frères, mais j'ai fait ci, j'ai fait ça. Bon, parce que, ben voilà, il fallait qu'on. Ils se sentaient quelque part pécheurs. Mais là, ils avaient la conscience. Et c'est ça, la confession. C'est ce sentiment de repentir. Pas quelque chose qui se fait automatiquement. On ne va pas voir le prêtre pour avoir l'absolution. C'est pas parce qu'il. Tu vois, c'est pas ça, la confession. La confession, c'est le sentiment de repentir. Mes frères, je suis désolé, j'ai péché, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et c'est arrivé à un moment où, donc effectivement, le fait de dire ça devant tout le monde, ça crée des problèmes au sein de la communauté. Donc, après, la confession est devenue individuelle. Et le prêtre disait, bon, ben, pour ce péché-là, excuse-moi, mais pendant X temps, tu ne pourras plus communier. Et avant, c'était très sévère. C'est-à-dire qu'à un certain moment, je ne sais pas quand, peut-être 6e, 7e siècle, je ne sais pas, mais il y avait des trucs, tu étais excommunié pendant plusieurs mois ou une année ou quelque chose. Hein. Bon. Et après, on te recevait et tu exprimais ton repentir. La confession, c'est exprimer son repentir. C'est se sentir pécheur et dire « Seigneur, j'ai péché ». Et donc, bien sûr, nous sommes tous pécheurs. Donc, mais maintenant, donc, comme au 1er siècle, maintenant, nous essayons de communier. Il y a des communautés où on communie tous les dimanches. Et le prêtre dit, c'est le prêtre qui dit, c'est pas toi, c'est le prêtre qui dit, ne viens pas te confesser tous les samedis, parce que ça devient quelque chose de mécanique. Et puis finalement, à un certain moment, tu vois, on est pécheur, quoi. Hein, on est pécheur, donc on n'est pas parfait, mais on ne tue pas son voisin toutes les semaines. Donc la communion, ça exprime encore une fois le fait que nous sommes chrétiens, et c'est une liturgie eucharistique. Eucharistie, ça veut dire nous rendons gloire à Dieu, nous rendons grâce pour tout ce qu'il a fait. Et il a fait ça tout gratuitement. Il nous pardonne nos péchés. Il faut savoir que Dieu nous aime. Mais il faut comprendre conscience de l'amour du Christ pour nous. Et que pour lui, mais il nous pardonne tout de suite. Mais pour lui, il t'aime. Mais comme tu ne peux pas savoir, tu ne comprends même pas. Tu n'as même pas conscience de l'amour du Christ, comment la force de son amour. Donc, qu'est-ce que nos péchés vis-à-vis de cet amour? Donc, bien sûr, nous essayons, après, chaque jour, comme dit saint Paul, comme dit saint Pierre, comme disent les apôtres, ne péchez pas, vous êtes pardonnés, vous êtes sauvés, mais ne péchez plus, ne péchez plus, comme le Christ dit. Voilà, tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Et voilà. Et en certains moments, on se rend compte qu'on ne sera jamais digne de communier.
Oui, mais on a quand même besoin d'une préparation. Si on va trop loin dans ton sens, il n'y a même plus besoin de se préparer.
Mais bien sûr, ne va pas, voilà, ne sors pas en boîte de nuit le samedi soir.
J'ai mis ça et tout, mais je veux dire, par exemple, on sait qu'on veut fêter pas le qu'on a 40 jours, plus de 3 semaines, et on se prépare parce que c'est un moment important.
Mais bien sûr.
Donc, je suis en 100% d'accord, 99% d'accord avec toi, mais je ne veux pas aller jusqu'au. Ça va trop loin de dire ils vont toujours pardonner. De toute façon, il n'y a pas d'enfant.
Bon, ben après, c'est chacun, si tu veux. Bon. Après, c'est chacun qui a conscience, effectivement, de ça. Mais l'essentiel doit être là. Il faut bien que tu comprennes que tout nous est donné gratuitement, que Jésus nous aime. Bien plus que qu'on peut le comprendre. Et quand on a conscience de ça, eh bien voilà, donc on agit en fonction. On agit en fonction de ça. Hein. Quand tu as conscience de ça, on agit en fonction de ça. Donc lis les épîtres de Saint Paul. Lis les épîtres de Saint Paul, tout est expliqué dedans. Hein. Et il le dit, et il le dit très clairement. Hein. Bon, on va arrêter là, parce qu'on ne peut ne pas s'arrêter. Hein. Mais, et voilà. Et donc, le rôle de la confession, c'est quand vraiment on a quelque chose sur le cœur, et on se dit, ben là, j'ai dépassé les limites, et là, je me repens. Là, vraiment, je me repens. Là, j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire, et là, je me repens. Et à ce moment-là, tu vas voir le prêtre, et tu lui confesses tes péchés à Dieu, voilà. Et à ce moment-là, tu lui confesses ton péché que tu considères qui est de trop, quoi. Donc, mais on n'est pas des saints, on ne sera jamais des saints. Enfin, il y a des saints séraphins, mais nous, on ne sera jamais comme eux. Et malgré tout, on peut communier, parce que le Christ est mort pour nous, pas que pour Saint-Séraphin. Il est mort pour nous tous, pour les plus grands des pécheurs. Hein. Et Jésus va accepter tout le monde, parce qu'il aime tout le monde. Et donc, il faut... Donc voilà, ben, la vie spirituelle, c'est ça. Et fais-toi aider par un père spirituel, et lui, et voilà, et donc... Et aussi, donc, il faut être guidé donc, par un père spirituel, parce que tu vas te confesser toujours au même prêtre, et il devient ton guide spirituel. Et il va te dire, lui, eh bien, confesse-toi une fois par mois, confesse-toi une fois... Bon, c'est lui qui va te dire quand est-ce qu'il faut que tu te... Mais toujours avoir présent à l'esprit, d'une part, que Jésus nous aime de telle façon que nos péchés, pour lui, c'est rien. Parce que quand tu aimes quelqu'un, là, tu te rends compte que ben, la personne, elle peut faire... Mais tu l'aimeras toujours et tu lui pardonnes tout. Hein? C'est inconditionnel, quoi, si tu veux. Voilà. Et qu'on n'est jamais digne de cet amour-là. Et que, justement, à ce moment-là, essayons de vivre, de prier. Parce que la prière, c'est la communion à Dieu. Donc, on prie en Église, tout ce que j'ai dit. Donc, ben, tout ça, voilà... On prie en Église, on prie individuellement, on essaye de vivre le mieux possible, le plus saintement possible, pardonner nous-mêmes aux autres, aimer son prochain, et voilà, et tout, et voilà, c'est ça la vie. Et la confession, c'est le repentir. La confession et le type du repentir, c'est le fils prodigue. Donc, lisons la parabole du fils prodigue. Essayons de comprendre ce que ça veut dire. Et là, il est bien marqué que quand le fils prodigue, quand il mangeait, donc quand il n'avait rien à manger, que les cochons mangeaient, que lui ne pouvait pas manger, Et il s'est souvenu qu'il avait un père. Et il a dit, chouette, je vais retourner chez mon père. Et le père, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a embrassé, il lui a donné de nouveau son anneau, ses plus beaux habits, et il a fait un banquet.
J'ai pas dit ça.
Ben voilà. Bon. Ben merci beaucoup pour votre...
C'est à toi.
Attention.